Nous sommes mercredi 12 octobre 2016 et j'ai pas de slibard.
Barre !
Voilà, bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, alors bonsoir Drosgar, bonsoir Zergy, bonsoir Antix. Drosgar qui n'est pas du tout à la bourre.
Bien de rentrer dans le bar.
Je viens juste d'arriver.
Ce n'est pas vrai.
Ça va être ta vestiaire.
Je suis en poil.
Je.
Va mettre un caleçon.
Il est nu en direct à la radio.
Regardez-moi.
Alors, ouais, parce que ceux qui connaissent Drosgar peuvent savoir que, bon, bah, globalement, il est quand même taillé comme une perche. Donc, ça doit être assez rigolo. À voir. Voilà.
Surtout à la radio.
Surtout la radio, c'est quand même ce qu'il y a de plus drôle. Donc cette émission qui est placée sous le signe de la grivoiserie, hein, comme vous le devinez, nous aurons d'abord, on va faire une petite rétrospective sur Paper Mario. On va partir du tout début de la série, on va essayer d'arriver à peu près jusqu'à les dernières itérations.
Genre vers la fin,
voilà, quelque part. On commence à peu près au début et on finit à peu près à la fin.
Je crois qu'on va commencer légèrement avant le début. Hein.
On va peut-être commencer, ouais, voilà. Enfin, ça dépend. On va peut-être commencer comme ça, mais voilà. On parlera ensuite de Paper Mario Color Splash. Alors, je pense être le seul à y avoir joué, non ? Alors, peut-être Zergy, je sais pas.
Non, j'ai vu la vidéo Twitch, par contre.
Ah, bon, bah, donc il était en direct. Voilà, donc nous sommes tous des novices de Paper Mario, sauf peut-être... Alors, Antix, je sais que t'es un expert, Zergy, je ne suis pas sûr.
Jamais joué.
Bon, bah, comme ça... Nous sommes tous des novices, nous allons compter sur Antix sur la première partie pour nous raconter Paper Mario.
Ce sera le Antix One Man Show.
On parlera ensuite donc de Paper Mario Color Splash, auquel j'ai joué suffisamment intensément ces derniers jours pour être capable de vous en parler. Mais on va commencer tout de suite par le tour de table de l'actu qui va être extrêmement court.
J'en ai une seule actu.
Alors vas-y,
commence. J'ai fait la semaine dernière, j'avais oublié.
Eh ben alors vas-y.
C'est pas grand chose, ça tient en une seule phrase en fait, c'est. Simplement, Sonic Boom Fire and Ice a eu 9 sur 10 sur Gamekult.
Alors,
voilà, je peux rentrer chez moi.
Est-ce que quelqu'un peut aller vérifier, s'il vous plaît, si
c'est... Non, c'est pas une connerie.
Tu te fous de ma gueule ?
Il a eu 4.
Voilà, c'est ce que je dis. C'est quand même un truc qui... Il manque quelque chose, là. Il manque une bière, en fait.
Il manque aussi un anniversaire, parce qu'aujourd'hui sont les 15 ans de Ace Attorney.
Putain, l'homme anniversaire.
Je suis tombé dessus sur Twitter tout à l'heure, je me suis dit, hey, cool, ça me ferait une news.
Ouais, sauf bon, bah, Ace Attorney. Attends, 15 ans ? C'est-à-dire, le premier épisode, il est sorti
déjà
sur quoi ?
2001 sur GBA, a priori.
Ah putain, au Japon alors ?
Oui, la série a commencé sur Game Boy Advance, la première trilogie, donc qui est Ace Attorney, Justice for All et Trial Tribulation. Je dois me gourer dans l'ordre. Donc les trois premiers épisodes sont sortis sur Game Boy Advance et c'est à partir de Apollo Justice qu'on a commencé à avoir des épisodes exclusifs sur DS. Et juste que nous en Europe on a commencé avec les remakes sur DS.
Voilà. D'accord, je savais pas que les épisodes DS étaient des remakes en fait. C'est,
C'est Capcom, hein, ils remake à l'infini.
Alors attends. Ouais.
Ah bien, je vais peut-être pas reprendre la pause.
Ça manquait.
On confirme, ça manquait. Ah, bien fraîche en plus, ça fait plaisir.
Comme ta femme.
Oui, bon, ça va.
Alors, dernière
petite news de notre tour de table de l'actualité. Est-ce que ça se sent qu'on est tous en mode... ça y est, on commence à avoir les couilles bleues tellement on attend la NX. Parce que là, franchement, en termes d'actu, c'est la...
Y a rien, c'est mort.
C'est la méga mort, c'est un truc de ouf, quoi.
Bah, à part les news hebdomadaires sur Pokémon.
Mais en gros, c'est ça, quoi. À part les mises à jour hebdomadaires de Pokémon, il n'y a rien.
Ah, tu sais que Pokémon, il sort bientôt. Hein.
Bah, tu sais que Pokémon, il sort bientôt, mais même en termes de jeu, je veux dire. Toute fin septembre, on a eu la sortie, mais c'est pas. Bon, il y a Steam World Collection et Fast Racing Neo qui sont sortis en version physique.
Ouais.
Ce qui est une bonne nouvelle, c'était bien et tout. Là, on a eu Paper Mario Color Splash.
Bah, y a eu les versions Nintendo Select aussi de quelques vieux jeux.
Quelques versions Nintendo Select dont tu as profité d'ailleurs, Antix.
Bah, Super Mario 3D World que je vais enfin pouvoir faire.
Que tu... Voilà, t'as bien fait, mais c'est vrai que pour le reste, putain, mais c'est le... Le vide sidéral absolu.
Il y a Riven Paradise qui sort, je crois que même ils l'ont sorti en avance. Enfin, j'ai lu des infos comme quoi les Micromania étaient autorisés à le sortir 10 jours avant. Peut-être qu'avec un peu de chance, vous pouvez le trouver dans votre Micromania chez vous. Vous allez encore dans ce genre de boutique.
Bah ouais, mais enfin voilà, c'est. Au mois de novembre, il n'y a rien.
Bah, il y a Pokémon. Voilà.
Voilà. Et au mois de décembre, il n'y a rien.
Il y a Mario Run.
Il y a la NES Mini en novembre.
Il y a la NES Mini en novembre. Oui, c'est vrai que ça fait quand même partie des trucs sur lesquels. Je suis d'ailleurs assez surpris de la qualité générale de ce qui nous a été présenté sur la NES Mini. C'est, je trouve que le boulot est assez impressionnant.
Il paraît quoi, j'ai vu les comparaisons avec la virtuelle console Wii U et la NES Mini la met, mais. Avec un bras dans le dos et l'autre dans le slip. Hein.
C'est ça. Non, mais alors, faut voir. Alors, on peut faire des petites comparaisons rigolotes, puisque moi, j'ai eu la chance d'avoir. Toutes les versions possibles et imaginables de la NES.
Même la Famicom.
Alors non, pas la Famicom, mais je veux dire en termes de qualité d'image, j'ai pu à peu près tout voir. J'avais une NES française qui est donc du RGB, enfin du composite qui est refactorisé en RGB.
Avec une prise péritale au passage.
Et qui a une image absolument dégueulasse parce que c'est de la conversion de conversion de conversion, donc c'est absolument ignoble. J'avais modé ma NES pour sortir du composite direct, qui est une belle amélioration, mais qui te fait toujours une image qui est très floue. L'image de la Virtual Console reprend en fait cette espèce d'image composite, c'est-à-dire relativement floue, mais en un peu plus sombre. Que ce soit sur Wii U ou sur Wii U, d'ailleurs, les jeux ont tendance à être beaucoup plus sombres.
Par contre, sur Wii U, t'avais des versions 60Hz de mémoire.
T'as des versions 60Hz pour certains jeux, pas tous.
Oui, pas pour tous. Hein.
Voilà. Et tu as certains jeux sur lesquels... Alors, je suis très étonné, mais par exemple, il me semble que Kirby's Adventures... sur Wii U, on a la version, sur le store, il me semble qu'on a la version américaine, je pourrais me tromper, mais il me semble que c'est ce jeu-là, donc il est en anglais, alors que le jeu, chez nous, est sorti en français.
Bon, après, c'est Kirby.
Oui, c'est Kirby, mais enfin bon, c'est un peu tristoun, parce que tu avais un jeu qui était intégralement en français. J'ai modé ma NES pour faire du RGB, du vrai RGB, avec le NES RGB de Tim Worthington, qui est un Australien. Qui a fait une petite board, c'est une galère sans nom à faire comme mode, il m'a fallu plusieurs dizaines d'heures et j'ai pété une NES dans l'opération. Mais donc là, tu as la meilleure qualité d'image possible, et honnêtement, tout ce que j'ai vu sur la NES Mini jusqu'à présent égale au moins ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est vraiment...
Donc c'est de la très bonne qualité
c'est
d'image.
C'est de la très 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 bonne qualité d'image par rapport à ce que tu as sur Virtual Console.
C'est alors sans que c'est un plug and play.
Complètement, en plus, alors que c'est un plug and play, t'as du vrai HDMI en plus en sortie, la plupart des plug and play, c'est du composite, hein. Chez Sega, tous les plug and play qui existent, c'est du composite. Donc c'est une image assez dégueulasse. C'est de la merde.
Voilà.
Donc là, c'est un vrai. T'as de la vraie image numérique et les mecs ont vraiment bossé pour aller prendre le signal RGB d'origine et aller juste l'upscaler proprement. Et voilà. Je suis assez impressionné.
Du coup, Nintendo, on va travailler avec impatience la Super Nintendo Mini, la Nintendo 64 Mini et la GameCube Mini.
J'achète.
Alors la N64 Mini. Je serais assez curieux de savoir comment ils vont faire parce que je vous rappelle que la N64 a une petite particularité assez drôle.
La manette avec trois tridents, non ?
Alors la manette en trident, ça va être assez marrant, mais même du point de vue du signal, il y a un anti-aliasing hardware dans la console qui n'est pas toujours désactivable en fonction du jeu. Donc est-ce qu'ils vont s'amuser à essayer de le désactiver ou pas pour...
Est-ce qu'ils feront pareil avec le brouillard ?
Est-ce qu'ils vont tenter de faire l'expérience N64 mais améliorée ?
Je pense que la Nintendo 64 va être la plus galère des trois restantes à proposer sur ce format, en vrai.
Je pense qu'effectivement, la N64 risque d'être assez galère pour tout un tas de raisons. C'est parce que, les émulateurs N64, même ceux de Nintendo, sont pas extraordinaires. Les émulateurs N64, on en parlait un tout petit peu avant l'émission, sont quand même assez... Il y a eu énormément de progrès fait ces dernières années, mais ça reste quand même relativement galère. Et puis, il y a tout un tas de détails qui font que finalement la N64 on en profite beaucoup plus quand on a un émulateur bien tweaké qui permet d'accélérer le jeu par exemple. Alors, si vous n'avez jamais joué à Perfect Dark à 4 sur la même télé en 10 frames par seconde sur le hardware d'origine, bah quand vous êtes sur émulateur et que ça tourne à 60 images secondes, vous êtes super content. Et c'est con hein, mais tu manipules un petit peu l'expérience d'origine, tu détériores entre guillemets l'expérience d'origine, mais t'améliores considérablement la qualité du jeu. Et je sais pas, la NES, tu peux te permettre, je pense, de faire tourner le jeu comme c'était à l'époque, avec éventuellement des ralentissements, des clignotements, des choses comme ça. ça passe. La Super NES, les ralentissements, déjà, ça a peut-être moins bien passé. La N64, je me dis que le brouillard, plus les ralentissements, plus le machin... Je sais pas si les gens vont accrocher.
Plus les défauts des jeux d'époque, type les caméras un peu moyennes, pour pas dire complètement chier dans certains jeux, et les balbutiements de la...
Attends, après, c'est une sélection de jeux aussi. Hein. Faut quand même voir que les mecs mettent pas tout...
Ouais, non, clairement, mais t'as toujours, tu vois, les balbutiements de l'époque... dont on n'a pas forcément conscience aujourd'hui parce que on y a pas retouché depuis un moment. On a pu avoir joué à des versions remasterisées comme les derniers Zelda. Je suis pas sûr qu'il y ait énormément de jeux 64 qui tiennent encore la route aujourd'hui.
Alors tu serais surpris, il y a quelques jeux qui tiennent. En fait, le problème c'est qu'il y a quelques jeux qui tiennent super bien la route, qui sont vraiment des maîtres étalons du genre Super Mario 64. Mais aucun souci, tu vois.
Je fais pas de souci, lui il sera divin quelle que soit l'époque.
Voilà, Ocarina of Time tient super bien la route. Le jeu a quelques menus défauts, mais franchement le truc tient la route, Majora's Mask tient carrément la route. Simplement Majora's Mask a une certaine tendance à ramer dans certains cas. Donc voilà, des jeux qui tiennent la route, il y en a pas mal. D'ailleurs,
il y en aura encore.
Il y en aura encore plein d'autres. Mais sur NES, c'est un peu pareil, hein, des jeux qui tiennent plus la route aujourd'hui parce que trop dur, trop répétitif, trop punitif. Bon, il y en a pas mal. Je trouve que la sélection qui a été faite par Nintendo était plutôt intelligente.
J'ai pas trop regardé ce qu'ils ont mis, les classiques style Balloon Fight, Donkey Kong, Pilot... Enfin non, Pilot Wings, c'était pas de l'époque, mais...
Non mais, ouais, enfin si, Pilot Wings NES, je suis sûr que ça existe. Je suis sûr qu'il y a des tarés qui l'ont fait.
Il y a un système de sauvegarde aussi sur la NES Mini, donc ça aide.
Ouais, il y a un système de save state, effectivement, qui doit bien aider. Mais ce qu'il faut voir essentiellement, c'est que les mecs se sont dit, voilà, de toute façon, il faut les grands classiques, donc il y a Super Mario Bros. 1, 2, 3...
Bon, tu peux pas parler de la NES sans mettre ces trois jeux.
Voilà, enfin, tu peux pas
sans mettre Mario Bros 1 et 3, déjà, c'est impossible.
1 et 3, c'est le minimum.
Le 2, tu peux, mais le 3, c'est pas possible.
T'as les deux Zelda, pareil, c'était le minimum. T'as Metroid, c'est le minimum. Voilà, t'as des trucs comme ça. Et puis après, les mecs ont essayé de faire une sélection en se disant, voilà, je mets deux jeux de sport. Donc là, je crois qu'il y a Tecmo Bowl ou Tecmo Super Bowl, je sais pas, c'est un jeu de football américain.
Il y a des jeux tiers.
Il y a des jeux tiers, oui. Donc, ils ont réussi à relicencier des jeux tiers.
Donc, peut y avoir du Megaman, du Castlevania.
Il me semble qu'il y a Megaman 2.
Il y a Castlevania.
Il y a Castlevania 1 et 2.
Parce qu'encore une fois, c'est des jeux mythiques de la console et ça me paraît très difficile de faire une sélection NES sans les mettre dedans, quoi.
Pareil, t'as genre Double Dragon 2. Tu peux pas faire une sélection NES sans Double Dragon 2, c'est quand même compliqué, ça fait partie des jeux un peu mythiques de la machine. T'as une quarantaine de jeux, mais t'as vraiment des jeux tiers qui ont été relicenciés. Alors aux États-Unis, il y a Final Fantasy.
Ouais, parce qu'ils ont en fait s'adapté. Enfin, ils ont pas sorti de jeux qui étaient pas sortis à l'époque sur la console, quoi.
Effectivement, et sur la Famicom Mini, tu as Final Fantasy 3 à la place de Final Fantasy.
Ouais, parce que de toute façon, c'est Final Fantasy 1, c'était le seul qui était sorti aux États-Unis à l'époque.
Tout à fait.
Parce que ce qu'ils considèrent Final Fantasy 2, c'est le 4.
C'est le premier sur Super NES, c'est Final Fantasy 3 américain, c'est Final Fantasy 6 japonais.
Voilà.
Et à partir de la PlayStation, donc à partir de Final Fantasy 7, Squaresoft a dit cut the bullshit, c'est Final Fantasy 7.
Ouais, et puis après ils ont sorti tous les autres
en version dans le désordre. Game Boy Advance.
Sur PlayStation.
PlayStation aussi d'ailleurs.
Sur PlayStation, ils avaient sorti le 1, le 2 et le 6, il me semble, peut-être le 4 et le 5, je sais pas en tête. Et après, t'as eu les versions Game Boy Advance, les versions DS pour le 3, plus la tripotée de portage sur iPhone et Android, quoi.
Enfin bref, tout ça est très disponible.
Mais voilà, je trouve très facile de jouer aux 6 premiers FF maintenant.
Oui, maintenant c'est très facile. Légalement et en toute simplicité, effectivement.
Faut être prêt à lâcher une quinzaine d'euros pour les versions mobiles.
Mais ça vaut peut-être le coup.
Les gens trouvent ça cher, je trouve que pour un Final Fantasy, c'est quand même...
C'est peut-être pas, des... c'est pas malhonnête non plus.
C'est un investissement rentabilisé, on parle quand même des jeux qui font des vingtaines d'heures.
En tout cas, la NES Mini, avec cette sélection-là, le côté plug and play, le côté image numérique, le côté safe state, le côté... Je suis sûr qu'il va s'en vendre des palettes entières, parce que l'objet en lui-même est super, super fun, super... Enfin voilà, c'est une petite NES super rigolote. Oh, les manettes sont cool.
C'est quel prix d'ailleurs, hein?
C'est 60 euros.
Ouais, c'est toujours un bon moyen d'acheter à ses enfants. Ouais, je jouais à ça quand j'étais plus jeune, à un prix quand même plutôt honnête. Quoi. 60 euros, c'est le prix d'un jeune homme.
60 euros, sachant que t'as 40 jeux dedans, si je me rappelle bien.
Ouais, 30.
30 jeux, ouais.
30 jeux, ah pardon, donc 30 jeux, ça fait 2€ le jeu.
Après, on parle de jeux qui se finissent en 2 heures.
Hein. Ouais.
C'est quand même moins cher que l'occasion.
Ah, c'est moins cher que la Virtual Console, de toute façon.
C'est moins cher que la Virtual Console. Et puis en plus, t'as une, enfin, voilà, t'as une expérience. Je veux dire, j'imagine bien les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Parce que la Virtual Console, je pense que ça marche bien, mais il faut déjà avoir une console Nintendo. C'est pas forcément le cas de tout le monde, du coup. Alors que là, finalement, t'achètes le truc, tu le branches en USB, tu le branches à ta télé, t'allumes, t'as ton jeu, quoi. Tu te prends pas la tête et ça marche.
Et puis ça doit prendre beaucoup de place aussi.
Ça prend pas énormément de place. Et voilà, pour 60€, en plus je pense que le prix a été bien étudié, c'est-à-dire qu'effectivement 60€ ça peut être un achat impulsif. Si tu vends ça 90€ ou 100€, déjà les mecs réfléchissent peut-être un peu plus. 60€ c'est le prix d'un triple A aujourd'hui en magasin. Donc là tu réfléchis peut-être pas trop. Tu peux avoir de l'achat impulsif là-dessus, ce qui serait peut-être pas le cas dans d'autres circonstances. Bon, nous avons marqué une première petite pause musicale.
Yay.
On fait ce petit tour de table de l'actu qui s'est résumé à... Putain, c'est bien la NES Mini, en fait.
Est-ce qu'on avait une actu, en vrai?
On n'avait pas d'actu, en vrai. Enfin, si, moi, j'avais un petit truc, mais à la limite, ça peut attendre la semaine prochaine. Ça nous tuera pas.
Jamais, mais faut pas le dire.
Mais si, on en a, c'est trop Oscar, il est que ça cher, voilà. Nous allons vous écouter un petit extrait de Paper Mario Sticker Stars, une magnifique suggestion de Monsieur Antix.
Merci.
La musique s'appelle Kirsty's Power.
C'est la musique de la dernière phase du boss final.
Voilà, donc comme ça on vous spoil le boss final.
Et alors on va jouer un petit jeu, essayer de trouver de quelle musique de Mario c'est le remix.
Ah, un petit jeu en plus. Voilà. Tu as le droit de nous répondre sur Twitter, hashtag dojobar, ou par mail, bar@nintendojo.fr. D'ailleurs, j'en profite, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer avec le hashtag dojobar, ou par mail, bar@nintendojo.fr. On vous promet qu'on répond à toutes les questions que vous nous posez. Voilà, Kirsty's Power, c'est maintenant. On se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes. À tout de suite. De retour. Et il a dit putain en direct.
Putain.
On l'a tous entendu. Oh mais c'est bon. Faudrait avoir une petite extension sur la console du machin qui bip chaque fois qu'on dit un gros mot. Ça bip de bip.
Ça sent tellement bien.
En bip de bip.
On trouvera des feintes. Cherche pas.
Non, il faut demander à l'IA de Google de faire ça en direct. Censurer en direct le truc. Ça devrait pas être très compliqué. Ils ont l'habitude de tout faire, de tout censurer en direct.
Voilà.
Alors, c'est maintenant qu'on va pouvoir parler de Paper Mario. Alors, on va commencer par Retrocessive de Paper Mario.
Ouais, ça se réussit pas la bière.
Non, ça ne réussit pas. Non.
La bière à base de champignons.
C'est pas une bière. En plus, ce n'est même pas une bière. C'était un mensonge. La bière est un mensonge.
Mon dieu.
The beer is a lie.
Tu veux dire que tu aurais eu un petit FSFX bière sur ton.
Ah non, j'ai pas. Non, c'est une vraie canette, hein, par contre.
Ah.
Mais ce n'est pas de la bière.
Petite
rétrospective Paper Mario. Alors, Antix étant notre grand expert Paper Mario.
Oui. C'est moi.
Je vais juste t'introduire de manière. Voilà. Sexy. Donc, Paper Mario, à l'origine, c'est pas Paper Mario, c'est Super Mario RPG 2. C'est le nom du projet chez Nintendo. Parce que l'origine du truc, c'est Super Mario RPG, qui était une joint venture entre Nintendo et Squaresoft pour produire un RPG dans l'univers de Mario. Donc Super Mario RPG, ça a plutôt bien marché. Enfin,
c'est même un jeu qui est plutôt populaire. Il n'est pas sorti chez nous, en Europe.
Il n'est pas sorti en Europe parce que je pense qu'il y avait un gros effort de traduction à faire.
Il y a ça, et il me semble que c'est un des tout derniers jeux de la Super Nintendo. à peu près sorti à la même époque que Final Fantasy VI et Chrono Trigger, et faudra vérifier les dates. Il me semble que c'est 94 ou 95.
Ouais, ça doit être des choses comme ça. Ouais. 94 parce que c'est les derniers de toute façon, vraiment très gros jeux qui sortaient.
Voilà. Et du coup, ouais, ça fait partie de cette série de jeux, comme Chrono Trigger ou Final Fantasy VI, qui n'ont pas été traduits parce que manque de temps. Le fait que les RPG, ça coûte quand même une blinde à traduire en 5 langues parce que Nintendo fait quand même cet effort. En tout cas, avec tous ces jeux. En tout cas, commencer à faire cet effort à l'époque. Et du coup, il n'a pas eu la chance d'une sortie française avant la version Virtual Console de 2000. Je sais plus combien. Enfin, c'est là
sur
où je l'ai
Wii,
fait.
De toute façon, 2008 ou 2009, ça doit être un truc comme ça.
Ouais, 8 ou 9, à l'époque où il commençait à faire les fameux Hanabi Festival, où il sortait des jeux import sur les Virtual Console des Wii d'Europe. Ce qui était plutôt cool d'ailleurs.
Ce qui était plutôt cool, par contre, le jeu n'a jamais été traduit. On a eu la version américaine en France.
Voilà, mais après, ça reste un jeu plutôt enfantin, donc pas très dur à comprendre. Et de mémoire, il y a une fat trap de la version Super Nintendo. Je crois que j'avais commencé le jeu comme ça, j'avais m'étais arrêté sur un boss, et après, je l'ai refini sur Wii avec la version anglaise.
Voilà, donc un jeu qu'on peut éventuellement conseiller. Alors, c'est faisable de trouver la cartouche d'origine, c'est un des jeux les plus chers du monde, mais c'est quand même pas donné. Voilà.
Alors, mon conseil habituel pour ce genre de jeu, c'est prenez la version Virtual Console si vous voulez être légal. Sinon, ZXNES marche toujours très bien.
Sur l'émulateur, ça marche très bien, ça fait partie des jeux qui fonctionnent relativement bien, mais c'est pas forcément toujours très agréable de jouer sur l'émulateur.
Moi je conseille la version Virtual Console. Je sais pas s'ils l'ont sorti sur Wii U. Et que je crois que les boutiques sont plus disponibles sur Wii, un peu chiant. Mais
c'est pas impossible.
Mais c'est un jeu qui est à faire. D'ailleurs, il posera pas mal de bases de ce qui donnera les Paper Mario, les Mario RPG de manière générale.
Mario RPG, on est d'accord, il y a Mario & Luigi.
Donc la branche Mario côté, Luigi et la
et de l'autre côté la branche Paper Mario.
Voilà. Sachant que parmi les bases, on retrouve notamment le fait qu'en combat, il y a tout un système d'action contextuelle à faire pour renforcer les dégâts et prendre moins de dégâts. Donc qui commence avec ce Super Mario RPG.
Oui, c'est le fameux système dans lequel, quand on saute en rythme, par exemple... c'est pas juste tu lances une attaque, tu sautes en rythme en même temps que Mario qui saute, et tu augmentes tes dégâts, t'as un timer, tu peux faire une garde au bon moment pour réduire tes dégâts, et ainsi de suite.
Voilà, il y a un timing à respecter, c'est globalement assez simple, c'est appuyer sur un bouton au bon moment de manière générale dans Super Mario RPG. Et après ça a aussi tout le côté délirant, le fait d'avoir des ennemis un petit peu inédits et que Bowser n'a pas forcément le rôle de méchant. Tous ces aspects ont vraiment été lancés dans ce Super Mario RPG et seront repris dans les deux autres épisodes, les deux autres sous-séries, on va dire, que sont Paper Mario et Mario Luigi.
Du coup, Paper Mario, en fait, sur N64, commence quand Nintendo se dit « Je veux Super Mario RPG 2, je veux que ça sorte sur N64 parce qu'on n'a pas assez de RPG. » Et les mecs commencent à plancher dessus, évidemment. Et ils confient ça à Intelligent System, qui marche très bien à ce moment-là, puisqu'ils ont, ils ont du Fire Emblem, ils ont du Advance Wars, et ainsi de suite.
C'était d'ailleurs, c'est leur premier jeu à Intelligent System, je crois que c'est quasiment leur seul jeu sur 64.
Il me semble aussi
peut-être,
que c'est leur seul jeu sur
64. Peut-être un panel de pont ou une variante.
Il y a Pokémon Puzzle League, mais en fait, il me semble qu'il n'a pas été fait complètement par Intelligent System.
Mais c'est vraiment, c'est leur premier vraiment gros jeu 64, quasiment leur premier jeu en 3D.
Et c'est un des derniers jeux de la N64.
Ah, il est sorti en Europe, il est sorti en 2001. En gros, il faisait partie des trois derniers jeux avec Pokémon Stadium 2 et
Mario Party 3. Mario Party 3, hein. Ça fait partie d'ailleurs des jeux relativement chers du coup.
D'ailleurs, je me souviens d'avoir une pub où justement il y avait ces deux jeux, Paper Mario et Mario Party 3. Et la pub disait voilà, ils sont sortis, et Mario vous dit dans 6 mois sur GameCube. Parce que la GameCube était déjà sortie dans le reste du monde. Mais pas en Europe.
Ah oui, parce qu'on est des losers en Europe.
Parce qu'on devait attendre mai 2002 pour l'avoir. Je me souviens de ça. Je crois que c'est quasiment le premier jeu d'intelligence sur 64, un de leurs premiers jeux en 3D. Pas intégral, puisque tous les personnages sont en 2D, d'où le nom Paper Mario. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre ? Ouais, c'est un projet sur lequel Miyamoto s'est pas mal investi, ce qui sera peut-être moins le cas sur les autres Mario RPG. quand on voit un petit peu le résultat final. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que c'est Aonuma qui a beaucoup bossé sur Majora's Mask, puisque Miyamoto était surtout accaparé par Paper Mario à l'époque.
Donc Paper Mario, ça reprend finalement un peu les bases de Super Mario RPG au niveau du système de combat et des choses comme ça, de l'histoire et de l'univers un peu délirant. Enfin, un peu... Alors, c'est pas délirant, on va dire, c'est plutôt décalé. Comme...
C'est très décalé.
C'est très second degré, très décalé.
Ça deviendra, enfin, on va dire que ça deviendra plus délirant dans... Les épisodes suivants, ça culminera avec l'épisode Wii, notamment. Et Super Mario Luigi, par contre, sont vraiment dans le côté délirant. Mais par contre, on revient un petit peu en arrière au niveau scénario, puisque là, c'est de nouveau Bowser qui est le méchant. Ceux qui ont... Il fait comme dans Mario Galaxy, c'est-à-dire que bah, pour enlever Peach, bah, il va tranquille, il fait passer son château en dessous de celui de la princesse, et puis il fait voler son château. Donc le château de la princesse se retrouve dans le ciel. Mario se fait éjecter par Bowser qui est devenu bien trop puissant puisqu'il a récupéré le sceptre étoile qui est un artefact qui peut exaucer les vœux de celui qui le possède. Et donc le vœu de Bowser est évidemment de pouvoir vaincre Mario. Et donc toute l'aventure consistera à parcourir le royaume champignon pour retrouver les 7 esprits étoiles que ceux qui ont joué à Mario Party 5 connaissent puisque ce sont les mêmes. Et ainsi trouver un moyen de vaincre Bowser et la baguette étoile.
D'accord, et donc sur un jeu qui, comme on l'a dit, reprend à peu près les bases de Super Mario RPG.
Voilà.
With a twist, puisque le style graphique est juste magnifique, puisque tout a l'air d'être découpé dans du papier avec plusieurs niveaux, avec plusieurs machins. Il y a énormément d'ailleurs de jeux et de jeux de mots sur ces histoires de papier, de découpage, de les personnages sont en vrai plat et se retournent.
Bah, t'as tout un aspect scène de théâtre. Enfin, clairement les décors sont un peu passés comme des scènes de théâtre, puisque quand tu rentres dans une maison, t'as pas un écran de chargement, c'est la maison se retrouve, enfin la façade, tu te retrouves de face, t'as la façade qui disparaît, la porte qui tombe. Et comme si c'était voilà, du bout de carton, tu sens le côté vraiment assumé, un peu théâtral, un peu décor, qui est utilisé dans ce style graphique, qui fait que le jeu tient vraiment la route visuellement à l'heure actuelle, enfin, le jeu très facilement, et qui vont nettement améliorer par la suite aussi. Et ouais, c'est vrai que niveau univers, après, il reprend très bien tous les aspects de Mario, hein, le design, de manière générale, les formes des personnages, les ennemis sont les mêmes, sont respectés. Il n'y a pas tellement d'ennemis inédits, c'est beaucoup de personnages déjà connus. Donc en fait, on retrouve assez... Enfin, c'est un premier épisode qui est assez... on va dire assez... Qui les joue assez... assez tranquille, assez safe au niveau de l'univers, de l'histoire. On a quand même des petits passages où on contrôle Peach, et notamment on découvre que Bowser est amoureux d'elle grâce à son journal intime. Mais voilà,
c'est...
Ça fait partie des petits côtés un peu délirants de cet épisode où on se prend pas trop au sérieux.
C'est ça en fait ce que tu disais à propos de la pièce de théâtre, je trouve ça intéressant parce que finalement c'est ce qui ressort beaucoup quand on lit des choses. Alors moi malheureusement le premier Paper Mario je l'ai pas fait, je l'ai récupéré il y a très peu de temps d'ailleurs, je me dis qu'un jour je m'y mettrai peut-être. Mais ce qui me paraît intéressant là-dedans c'est le côté pièce de théâtre, c'est finalement... Le côté presque... On peut écrire ce qu'on veut comme histoire, on s'en fout puisque c'est un Mario de papier... qui est juste une espèce de marionnette qu'on agite et dans un monde où on fait effectivement un peu ce qu'on veut. Et j'ai l'impression que ça a permis... alors je sais pas si Miyamoto se sentait peut-être prisonnier de l'univers de Mario, j'en sais rien, mais les mecs ont réussi à se dire finalement, on s'en fout, on fait n'importe quoi, c'est une pièce de théâtre, c'est pas grave. On peut aller faire ça, on peut aller jeter tel ennemi à tel endroit, telle réplique, c'est, aucune importance, c'est une pièce de théâtre, prenons-le comme ça.
Quand même dire que voilà tous les il y a un système d'alliés qui est un peu différent de Super Mario RPG. Donc Mario RPG a un système d'équipe très classique, c'est Mario plus deux membres. Paper Mario va faire beaucoup plus simple, c'est à dire que seul Mario a une barre de vie, les points de magie sont communs aux deux personnages, et donc l'allié qui est avec Mario il ne peut en avoir qu'un seul à la fois, ils ont tous des capacités très différentes. Quand il se fait toucher, il est KO pendant quelques secondes, je crois. Et tous les alliés de ce jeu, d'ailleurs, ils n'ont pas essayé de créer de nouveaux persos comme c'était le cas dans Mario RPG, c'est que des ennemis classiques de Mario. Le premier que t'as, c'est un Goomba, après t'as évidemment un Koopa. Tu vas recruter une Bob-Bombe, une boue noble qui se bat avec un éventail, et tu vas même te balader avec un Chip-Chip dans la jungle. Il y a même un lac qui tue avec une tenue de biker.
C'est rien que pour ça, tu vois. Tu t'as dit cette phrase et tout d'un coup, tout le monde se sent obligé d'acheter ce jeu, quoi.
Mais c'est un jeu qui apprend l'univers de Mario sans vraiment se prendre au sérieux. Et je pense que le fait que ce soit un Intelligent System qui est finalement un studio assez indépendant, enfin, ils sont pas. Leurs locaux sont pas dans Sony Nintendo. Ils sont un peu à part et qui du coup ont une vision du jeu vidéo un peu différente, notamment avec Fire Emblem qui est une série assez verbeuse. Je pense que ça leur a permis d'avoir une interprétation de l'univers Mario qui est très très différente de ce qu'on avait pu avoir jusqu'à présent. Et ça participe un peu à tout le côté délirant de ce jeu qui respecte en même temps l'univers de Mario. Donc il est à la fois très simple d'accès et extrêmement amusant à visiter.
On enchaîne donc sur GameCube avec Paper Mario, la porte millénaire. Que personnellement, alors c'est sorti en 2004 aux États-Unis, donc je sais pas si nous peut-être en 2005 du coup.
Il me semble que c'est 2004 aussi. Hein.
C'est possible que ce soit 2004 aussi. Cet épisode-là, moi, il m'est passé, mais alors complètement au-dessus. Je ne sais absolument rien dessus. Et autant Paper Mario, j'en avais entendu parler en 2001 quand il était sorti. Je m'étais un petit peu renseigné, je connaissais un peu le truc, donc ça m'avait pas intéressé sur le coup, parce que c'est pas le genre de jeu auquel je m'intéressais à ce moment-là. Mais c'est vrai que celui de le Paper Mario, la porte millénaire, il m'est passé, mais alors à 10 km au-dessus, c'est pas en faisant cette chronique particulièrement que je savais qu'il y en avait un qui était sorti sur GameCube, mais pratiquement, quoi. Je me suis dit, ah tiens, oui, effectivement, il y en a un sur GameCube. Je l'avais pas du tout calculé.
C'est marrant que tu dis ça, parce que c'est à l'heure actuelle, je pense, le Paper Mario le plus populaire, en tout cas sur Internet, c'est l'impression que ça donne.
Vu le prix auquel il est, ouais, j'imagine.
Bah, en fait, c'est surtout que, contrairement au premier, il est sorti en plein milieu de la vie de la GameCube. Ce qui fait qu'il a eu une médiatisation, il s'est pas fait bouffer par la sortie des jeux PS2 en 2000. Enfin, faut se dire que Paper Mario est sorti en 2001, t'avais Metal Gear Solid 2 et Final Fantasy X qui sortaient sur PS2 la même année, quoi. Là, en 2004, il était sur une console current gen.
Qui était pas à son pic de popularité, mais enfin qui était quand même raisonnablement.
C'était le début de la fin. Fin 2004, c'était le début de la fin.
Fin 2004, oui, ça commençait à être un petit peu descendant, mais enfin t'avais quand même 20. T'avais déjà un beau parc d'installés, et effectivement, les jeux et une console qui marchait plutôt bien.
Voilà, donc c'est un jeu qui pour le coup a eu un fort rayonnement, qui a beaucoup été apprécié évidemment, parce que. Pour à peu près les mêmes raisons que Paper Mario, on retrouve tout le côté délirant, même beaucoup plus poussé qu'avant dans celui-là, puisqu'on se retrouve carrément avec des phases où Bowser reprend certains, enfin où tu rejoues des niveaux de Mario avec Bowser. Tu t'accumules de la, au lieu d'avoir champignon, t'as de la viande qui le font grandir et à un moment il devient juste gigantesque. Il a juste à marcher pour atomiser tout le niveau, quoi. Et je pense, enfin ça fait partie des raisons pour lesquelles ce jeu est vraiment populaire. Moi je l'aime beaucoup, je préfère le premier, que je trouve mieux équilibré, parce que pour moi Paper Mario GameCube a un défaut, c'est que sur une bonne partie la bonne moitié des chapitres, tu as beaucoup d'allers-retours à faire dans les zones, parce que chaque jeu, il y a globalement un hub central comme un peu à la Mario 64 ou à la Majora's Mask, et dans ce hub tu vas pouvoir accéder aux différentes zones où va se dérouler chaque chapitre, tu devras récupérer un morceau étoile, enfin le gimmick de chaque le MacGuffin de chaque jeu. Et là où Paper Mario arrivait à faire des zones assez larges où il y avait pas mal de choses à visiter et finalement tu revenais rarement en arrière, la porte millénaire a beaucoup plus ce problème de zones beaucoup plus petites. Et il y a des fois c'est très bien fait. Il y a tout un chapitre où on doit faire du catch dans une arène avec toute une espèce d'enquête sur des disparitions à côté, qui est un chapitre absolument excellent. Et celui juste d'après, faut faire des allers-retours dans la forêt pour poursuivre une espèce de fantôme qui t'a volé ton identité. Et là, c'est vachement plus chiant parce que le chemin dans la forêt est tout petit, donc tu te retapes tous les ennemis à chaque fois que tu vas faire des allers-retours. Et il suffit que t'en fasses un de trop et tu perds un quart d'heure, 20 minutes de jeu facile, quoi.
Ouais, le genre de truc qui peut être. Enfin, le genre de détail qui peut être assez relou quand. Enfin, des jeux qui sont basés vulgairement du backtracking, hein, du retour arrière, comme on dit chez nos amis de Québec. Des jeux qui sont basés sur du backtracking, mais qui malheureusement ont un ou deux détails mal foutus, ça devient vite beaucoup plus fastidieux qu'intéressant.
Ouais, et c'est dommage parce qu'on a, pour le coup, pour le reste, Intelligent System, hein, qui est toujours au développement, a vraiment poussé déjà tout l'aspect scénario. On a des chapitres beaucoup, beaucoup plus narrés, avec, bah, comme je l'ai parlé, voilà, cette histoire de Catch, dans quelle soit disparition. On en a un qui est quasiment un hommage à Agatha Christie, avec des histoires de meurtre dans un train. Et le système de combat a été amélioré, il y a plus de possibilités. Donc t'as plein d'idées qu'ont vraiment été améliorées. Enfin, le jeu a vraiment été amélioré et vraiment bien pensé. Mais moi, il y a juste cette histoire d'aller-retour qui me pourrit un petit peu le jeu. Enfin, là, je suis rejoué une seule fois. Et c'est vrai, quand je suis arrivé à ce moment-là où je savais qu'il y avait les allers-retours, j'étais. C'est un peu dommage de devoir se remanger ce passage-là, quoi. Mais ça reste lui aussi un excellent épisode.
Donc oui, en dehors de ça, donc pour toi c'est le plus populaire.
C'est a priori c'est le plus populaire. Enfin moi c'est l'impression que j'ai. Hein, c'est que souvent quand on parle de Paper Mario, c'est la porte millénaire, c'est pas le premier sur 64, et c'est pas ce qu'on suit.
Et malheureusement c'est le moins accessible parce que il est disponible en tout cas légalement que sur GameCube, qui pour l'instant je vous rappelle qu'il n'y a toujours pas de Virtual Console GameCube, ce qui est un putain de scandale.
Voilà, c'est le jeu le plus dur auquel le plus dur à accéder. Et c'est aussi accessoirement le dernier à avoir cette formule RPG avec Mario en compagnon, une aventure, un monde assez, enfin pas ouvert, mais qui n'est pas divisé en zones de façon vraiment explicite.
Voilà, parce qu'en 2007, on enchaîne avec Super Paper Mario sur Wii. Et là, du coup, changement radical de formule.
Alors, oui non, parce qu'on garde toujours l'aspect RPG avec des montées de niveau, des points de vie qui augmentent. Mais on va passer à un truc qui va se rapprocher plus de la plateforme. Donc c'est un hybride RPG-plateforme. Très important, je pense que c'est le Paper Mario où ça parle le plus. Et c'est aussi le Paper Mario où, là par contre, Intelligent System, on n'avait plus rien à foutre. Et le scénario part dans absolument tous les sens. À un moment, tu affrontes un caméléon geek et tu fais un dating sim avec Peach juste avant le combat de boss.
Tu as donc un dating sim avec Peach. Donc ça veut dire que Nintendo a validé le fait que tu ailles draguer Peach dans un jeu.
Voilà,
tout va bien.
Pour donner une idée, la scène d'intro, c'est Bowser qui va se marier avec Peach.
Mais ça, c'est normal.
Non, il y a la cérémonie.
Mais ça, c'est normal, c'est tout va bien, ça.
Mais voilà, c'est donc super Paper Mario en termes de scénario. Du coup, il est assez conséquent et devient un stade même où il va faire beaucoup de blagues méta. Quand tu meurs, tu te retrouves en enfer, tu t'es pris un game over et tu retrouves les cadavres des Koopas que t'as buté dans le jeu précédent. voilà, tu vois le genre d'idée.
Oui, je vois le genre d'idée.
Ah, tu vois, donc t'as cette histoire de caméléon, t'as plein de trucs comme ça. Les personnages, du coup, il n'y a plus de système de partenaires, on va dire. Enfin, Mario est accompagné d'espèces de. Comment ça s'appelle ces espèces de personnages en fil de fer qui vont lui donner des capacités un peu spéciales. Mais surtout dans cet épisode-là, les personnages jouables sont les quatre personnages principaux de Mario qui sont Mario, Bowser, Peach et Luigi. Ont tous leurs capacités propres et ce qui du coup est assez cool de les voir tous les quatre alliés on va dire et voilà c'est un épisode qui est vraiment sympa très différent de la formule GameCube 64 mais qui a vraiment de très bonnes surprises et même des moments assez glauques. Enfin le boss final est très perturbant, je veux pas en dire plus, mais si vous êtes curieux et que vous avez pas joué au jeu, ben soit faites le soit allez voir sur YouTube, mais Là je ne sais pas comment le boss final a été validé par Miyamoto, quoi.
Il a peut-être pas validé, ils l'ont peut-être bien caché.
Possible. Ah, pourtant, tu peux pas le louper, quoi.
Il ressemble à une bite géante ou pas?
Non, mais...
Il ressemble à un vagin.
Non plus.
Ah, merde. Bah, dans ces cas-là, ça passe.
Non, c'est pas spécialement trash, c'est juste très perturbant.
D'accord, on n'en demandera pas plus. Si vous êtes curieux, on vous invite à aller regarder.
Je vous conseille d'aller voir, en tout cas. Et le jeu avait une excellente VF. Enfin, la traduction... les trois jeux est très très bonne, mais celle de Super Paper Mario brillait vraiment par la capacité des traducteurs français à comprendre les références.
Et à adapter les blagues.
Et à adapter les blagues. Enfin,
ce qui est quand même un truc super difficile à faire. Hein.
Voilà, je trouve qu'ils s'en sont très très bien sortis. Voilà, je pense que c'est à peu près le tour. Le seul inconvénient que ce jeu peut avoir, c'est qu'il est, il parle beaucoup, parfois pas toujours pour être très intéressant. Mais ça reste une bonne expérience qui est... qui pour du Mario est vraiment très, vraiment à part, quoi.
On enchaîne avec Paper Mario Sticker Star sur 3DS. Donc ça, je sais que c'est l'épisode qui est un peu l'épisode détesté par... Enfin, détesté, peut-être pas exagéré, mais... C'est un peu l'épisode, je vais pas dire l'épisode de trop parce qu'il y en a un juste derrière, donc c'est un peu dommage, mais qui est l'épisode sur lequel tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il y a quelque chose qui a foiré, quoi. Voilà, ça a merdé, enfin le système de combat est pas du tout comme il faudrait, et apparemment on peut même rester, c'est ce que j'ai lu il y a relativement peu de temps, pour préparer cette émission d'ailleurs, qu'on pouvait même rester coincé dans certaines parties du jeu si on n'avait pas les bons stickers, donc les bons autocollants au bon endroit au bon moment. Ce qui moi me paraît un peu hallucinant.
Alors, pour parler un peu de Sticker Star, je me suis fait un avis sur le jeu après y avoir joué. Enfin, je trouve pas qu'il soit aussi mauvais que certains veulent le dire. C'est vrai que quand il a été présenté la première fois, il y a eu un espoir le retour à la formule classique de Paper Mario, avec un RPG, une aventure et compagnie. Et le côté aventure est revenu, mais on s'est retrouvé déjà avec au lieu d'avoir un monde continu, on se retrouve avec une carte du monde, vraiment comme dans Mario Bros 3, avec des petites zones à visiter. Et en fait, j'estime que c'est... Paper Mario Sticker Star est un jeu d'aventure, dans le sens comme les jeux LucasArts, les Monkey Island, les Chevaliers de Baphomet. Pas un jeu LucasArts, mais qui est un jeu d'aventure, mais qui ne s'assume pas et se sent obligé d'avoir des combats.
T'en es carrément là. C'est-à-dire, toi, tu dis, c'est une espèce de point and click, mais qui assume pas son statut de point and click et qui a quand même recollé des combats pour pas vexer tout le monde, quoi.
Voilà, en fait, il a le cul entre deux chaises et il essaie de faire à la fois des niveaux avec des petites énigmes, des interactions rigolotes et. Donc globalement, voilà, quoi, c'est des intérêts. Enfin, tu veux dans une zone récupérer un objet pour essayer de débloquer une autre, ce qui est un peu le concept du point and click. Et à la fois avoir un côté RPG avec des combats, mais le problème de ces combats, c'est que ils ne te rapportent rien en termes de progression. Tu ne gagnes pas l'expérience, comme c'était le cas avant. L'autre seul problème, c'est que bon, ce serait pas trop un souci si au final t'as juste à faire attaquer et c'était gagné. C'est qu'en plus, ça va te faire dépenser des ressources qui sont les stickers pour pouvoir finir ces combats.
Ouais, les fameux autocollants qu'il faut effectivement dépenser et qu'on est obligé d'aller retrouver dans les décors, c'est ça? Enfin,
retrouver dans les corps en battant les ennemis, mais du coup, tu te retrouves à gagner des autocollants qui ne sont vraiment utiles qu'en combat. Enfin, t'as des autocollants qui sont vraiment utiles qu'en combat, mais des combats qui finalement ne sont pas intéressants puisqu'ils ne te rapportent rien. Tu perds plus à combattre que...
Oui, finalement, c'est... le combat est pas vraiment motivé. C'est-à-dire que si tu combats, tu vas aller gagner des stickers que tu peux utiliser que pendant les combats qui, de toute façon, sont pas intéressants. Donc le truc est, entre guillemets, auto-alimenté.
Voilà, en fait, t'as l'impression que c'est une partie du jeu qui est juste là pour dire « on a gardé le côté combat RPG, quoi !» Alors qu'en fait... ils auraient pu faire un côté aventure vraiment développé avec un bon scénario, des situations complètement délirantes, il y en a encore quelques-unes. Et au final, ils n'y arrivent pas. Le seul truc bien dans les combats, c'est les combats de boss, par contre, qui sont vraiment très malins. Et donc là, on avait parlé de cette histoire de si t'as pas le bon sticker au bon moment, t'es coincé. C'est que ces combats de boss nécessitent l'utilisation de stickers particuliers pour faciliter le combat, voire carrément le rendre battable. Bon, c'est les seuls vraiment combats intéressants du jeu, mais du coup, t'as pas vraiment d'indices pour savoir comment réussir aussi, donc c'est un peu compliqué et tu peux te retrouver bloqué facilement en fait. C'est un peu dommage.
D'accord, donc on ne parlera pas, je pense. Alors, sauf si tu veux rajouter un petit mot sur Mario & Luigi Paper Jam.
Je vais quand même finir sur Sticker Star et c'est cet épisode là. Ils ont beaucoup baissé la partie scénario, ce qui fait que du coup à côté la partie gameplay est pas toujours folle et la partie scénario rattrape pas vraiment ça. Et une des raisons qui a été invoquée par Miyamoto, c'est que les gens n'étaient pas intéressés par le scénario dans le précédent et du coup ils se sont dit c'est pas la peine de en mettre plus que ça. Et ce qui est un petit peu dommage parce que Paper Mario a vraiment ce plaisir, vraiment ce côté décomplexé de l'univers Mario, et Sticker Star du coup l'a quand même beaucoup moins.
D'accord. Donc finalement, pour toi, le mouton noir jusqu'à présent, c'est quand même Sticker Star.
Ben, il y a une idée.
Je parle à l'expert là, en me disant voilà, le pic de la série. Enfin, en tout cas, ce serait plutôt l'épisode GameCube. De l'avis de tout le monde, toi, t'as l'air de dire que tu préfères quand même l'épisode N64.
Ouais.
Super Paper Mario vaut le coup parce qu'il est très accessible et finalement il y a l'humour très méta et tout ça, c'est un jeu un peu différent mais ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant à faire.
Ah, Sticker Star c'est Mario
décomplexé,
c'est
super. Quoi.
C'est un jeu qui est assez moyen, un épisode de Paper Mario qui est évidemment très différent, mais être différent c'est pas un souci, c'est intéressant et là ça l'est pas vraiment. Et du coup non, c'est pas du tout un épisode que je conseille, vraiment pas. Ouais, tout simplement parce que c'est pas passionnant quoi.
Ok, et eh ben écoute, sur ce on va marquer une deuxième petite
pause. Je dirais rien sur Paper Jam parce que je n'y ai joué que à la version démo de...
On est d'accord, mais moi aussi j'ai joué qu'à la version démo
et c'est plus un Mario Luigi qu'un Paper Mario.
C'est plus un Mario Luigi qu'un Paper Mario, c'est plus une espèce de caméo de Paper Mario dans Mario et Luigi en fait. C'est plus comme ça qu'il faut le voir.
C'est un peu le moment où on a l'impression que Nintendo sait pas trop quoi faire de Paper Mario, et au lieu de laisser reposer et de ressortir ça plus tard...
Ils se sont dit, voilà, on va tenter quelque chose. Peut-être qu'un jour on parlera de Mario et Luigi, d'ailleurs. Ça peut être intéressant, parce que c'est vrai que ça commence à faire une série un peu rigolote.
Il y a 5 épisodes.
Exactement. Donc un jour peut-être qu'on en parlera. En attendant, on va s'écouter un petit morceau de la BO de Paper Mario Color Splash sur Wii U. Le morceau s'appelle Port Prisma Channel 2 en anglais, donc il me semble que c'est le port principal, ça doit être le quartier sud, quelque chose comme ça. C'est un morceau très jazzy qui dure un tout petit peu plus de 2 minutes et on se retrouve tout de suite après.
Tour.
Ouais, je suis désolé Antique, j'étais obligé de t'interrompre pendant le truc. En fait, le morceau est super court, celui de Color Splash. C'est vraiment 2 minutes.
Ouais, mais
jazzy, très sympa, mais 2 minutes.
Bah, d'ailleurs, le côté jazzy, c'est avec Sticker Star qui l'ont commencé. Parce qu'avant, c'était la compositrice de Fire Emblem qui faisait les musiques. Et ils ont changé de compositeur avec Sticker Star. Et pour le coup, c'est un truc que Sticker Star fait mieux que les autres, c'est la musique.
Bah, sur Color Splash, la musique elle est super sympa. C'est effectivement très jazzy, très. Il y a des morceaux, c'est plus funk, c'est plus. La musique est super agréable. Et c'est vrai que rien que pour ça, c'est un vrai plaisir à jouer parce que le jeu est super joli. Vraiment, je veux dire, le jeu est vraiment, vraiment magnifique. Tous les jeux avec les aplats de personnages, les déplacements, le fait d'avoir finalement une animation relativement hachée pour les personnages, tout ça c'est très très bien fait, on dirait pratiquement du comment ça s'appelle, du aidez-moi,
c'est bon. Oui.
Du motion bidule,
stop motion,
du stop motion, ouais. Tu putain, Drosgar, merci. On dirait pratiquement de l'animation en stop motion. C'est-à-dire, t'as vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui a pris le bout de papier, qui a mis le bout de papier de Mario avec les deux jambes par terre, puis qu'il a enlevé, qu'il a mis le Paper Mario avec la jambe en l'air pour le faire avancer. Enfin, c'est juste délirant la façon dont l'animation est faite, quoi. En gros, le jeu est à 60 images par seconde, mais l'animation des personnages est volontairement en 30 ou 20 images par seconde donner cet effet d'espèce,
peu, hein.
Voilà, donner cet effet stop motion qui, je trouve, est super réussi.
Oh, ouais, artistiquement, entre la musique jazz et les petites compositions de jazzy, moi j'avais beaucoup aimé sur le stream ce que j'ai entendu. L'aspect visuel, Paper Mario Wii U, pour le coup, il est irréprochable de ce côté-là.
Il est irréprochable de ce côté-là, et t'as plein de petites trouvailles visuelles qui rendent le truc Enfin, ça fait que ça clique. D'ailleurs, c'est un petit peu Paper Mario rencontre Splatoon, puisque là, le marteau qu'on a depuis Super Mario RPG, le fameux marteau de Paper Mario qui sert à taper dans des trucs, ben là, il a deux fonctions. Soit il peut taper, soit il fait Splash Hammer, en fait. Il fait le marteau qui envoie de la peinture. Alors, c'est complètement débile, un marteau qui envoie de la peinture. Et du coup, il faut aller colorier des trucs. Bon, alors, qui sont pas, tout blancs.
Est-ce que c'est débile dans une série où manger un champignon, ça te fait grandir?
Ouais, quand même.
Voilà.
Mais non, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a ce détail-là. Mais du coup, ouais, Paper Mario Color Splash, s'il y a vraiment un truc qu'on peut absolument pas lui reprocher, c'est tout l'aspect technique. Le jeu est vraiment magnifique et c'est un vrai plaisir pour les oreilles.
C'est la conséquence du design censé 64, mais avec une puissance de calcul suffisante pour vraiment pousser le délire jusqu'au bout, quoi. Et repasser de Paper Mario 64 à cet épisode, on voit vraiment la progression, en fait.
Oui, et puis même, t'as plein de trouvailles visuelles toutes bêtes, mais qui marchent bien. Il y a un moment où tu te retrouves sur une plage, et en fait, il faut donner des coups de marteau dans les parasols pour qu'ils se déplient. Et en fait, l'animation du parasol qui se déplie, t'as vraiment l'impression que c'est un origami que quelqu'un est en train de déplier. Le truc est vraiment... C'est assez fou d'avoir un truc en 3D comme ça. Je trouve que visuellement, sur Wii U en tout cas, Nintendo a adopté plein de styles visuels différents, que ce soit le style un peu cartoon de Super Mario 3D World, qui était un peu dans la continuité de Mario Galaxy et tout ça, mais qui reste quand même un style un peu doux, finalement, dans lequel les textures sont un peu lissées, mais pas trop, en passant par le style de... De Breath of the Wild qu'on avait vu, qui est pareil, qui est un peu cartoon, qui est un tout petit peu cel-shadé, mais pas grand-chose, t'as quand même des aplats de couleurs, à Yoshi's Woolly World, qui est juste magnifique, Color Splash, qui t'as vraiment l'impression d'être face à un jeu qui est fait en stop-motion papier, quoi. C'est assez fou ce qu'ils sont arrivés à faire, je trouve, sur cette génération-là, avec... Alors c'est peut-être effectivement la puissance de calcul, je sais pas, mais je trouve que c'est assez gueudin ce qu'ils sont arrivés à tirer de cette console-là, et d'avoir à chaque fois un patte artistique qui soit vraiment unique et super bien foutu.
C'est aussi la conséquence du fait qu'ils ont pas non plus, enfin, ils ont une puissance de calcul, mais il faut aussi qu'ils fassent des compromis. C'est quand même quelque chose qu'ils font depuis des années chez Nintendo avec toutes leurs consoles. Et ils arrivent toujours à trouver des petites solutions pour contourner le manque de puissance, et ben, ça en fait clairement partie, hein. Au lieu d'essayer de faire un truc photoréaliste, bah on fait un truc cartoon. Mais du coup, on va observer tout cet aspect. Moi, je trouve que le meilleur exemple de tout ça, c'est Mario Kart 8.
Oui, c'est clair que...
Visuellement, propre visuellement, avec le framerate et la résolution le mieux possible, quoi.
Ouais, que Mario Kart 8 fait partie aussi des exemples dans lesquels ça marche. Ce style... Finalement, le saut de la haute définition, Nintendo l'a fait plutôt correctement, parce qu'ils n'ont pas essayé de rajouter des shaders et des machins, des trucs. Non, ils ont utilisé ça, mais en essayant de le mettre au service d'un style un peu particulier que tu retrouves sur presque tous les jeux.
Ouais, bah ils ont leur propre patte, et c'est ce qui, enfin, visuellement, ça a toujours fait leur force. Enfin, là, depuis qu'on est passé à la 3D et qu'on peut faire des trucs vraiment réalistes, eux, ils ont gardé leur style à eux, et je pense qu'ils font très très bien de continuer dans cette voie, hein.
Bref, pour revenir à Color Splash, alors moi j'ai réussi à faire, donc je pensais, le direct de vendredi dernier, je pensais pouvoir atteindre le premier boss en 3-4 heures, en me disant bon, c'est à peu près ça le truc, mais en fait non, ça prend vachement plus de temps que ça. Hein. Alors peut-être que je galère un peu, peut-être que je suis un perfectionniste, peut-être que je m'attarde un peu trop dans les niveaux à essayer de farfouiller partout, mais les niveaux sont relativement longs. Alors le jeu est toujours... très prédécoupé, moi c'est ça qui m'a un peu... ça fait un peu bizarre. C'est effectivement, t'as une world map à la Super Mario Bros. 3, où tu vas aller entrer dans différents niveaux, et chaque niveau a un thème bien précis. Il peut être éventuellement découpé en plusieurs zones, et derrière tu vas avoir des sortes d'énigmes, on va dire, avec des gros guillemets, à résoudre.
Globalement, c'est ce qui se passait dans Sticker Star.
Voilà, je pense que ça reprend à peu près cette formule-là.
Ça m'avait quand même l'air un petit peu mieux foutu.
Je sais pas, parce que tu vois, j'ai pas Sticker Star pour comparer.
Ouais, de ce que j'en ai vu, t'es déjà un peu mieux mis en... Enfin, en tout cas, du début, c'était un peu mieux mis en scène, un peu plus... un peu moins austère, en fait. Bah, typiquement, tu te fais quand même ouvrir une porte PQ, donc moi, ça me faisait mourir de rire. Avec un saut qui fait des jeux de mots sur les pots, alors...
Ouais, non, mais le pot de peinture, il est peinturion, là, il est un peu délirant comme personnage, parce qu'effectivement, il arrête pas de dire « Oh là là, on a vraiment pas de peau !»« Oh là là, vous avez vraiment tous des pots de chambre !» Enfin bref. Ah ouais, il insulte un peu tout le monde, c'est marrant.
Pour le coup, là, les traducteurs...
les traducteurs se sont lâchés. Malheureusement, j'ai pas noté les exemples, j'aurais dû, parce que du coup, ça m'est sorti de la tête. Mais il y a un moment où... j'étais limite choqué parce que je me suis dit, si ce jeu de mots c'est ça. En gros, ils impliquaient pratiquement que t'avais marché sur les couilles d'un toad, quoi. Et le truc est super subtil, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est soft, c'est 3+, quoi. Y a pas de problème, ça passe en 3+. Mais c'est le genre de truc où le gamin, lui, il a vu que du feu, et moi j'étais là en mode, putain, mais quel gros jeu de mots de bâtard, quoi.
Ah non, ils sont bons là-dessus, et puis moi j'avais regardé, ils ont fait un petit truc sympa dans les combats, bon. Pour l'air d'être un peu comme avant, enfin comme dans Sticker Star, mais t'avais tout le côté, les ennemis pendant que t'es en train de préparer ton tour, ils sont en train de te balancer des vannes, c'est génial.
Alors moi je le voyais pas parce que du coup j'étais en train de jouer. Parce que
tu vois, premier combat, t'as les masques qui sont là, t'attendent, genre, c'est ton premier combat ? Tu veux que je t'apprenne à te battre ?
Ouais, non, mais c'est ça. C'est
des trucs comme ça, quoi.
C'est des trucs de ce genre-là. Mais voilà, donc le jeu est quand même relativement prédécoupé. Moi c'est ça qui m'a un peu. Pas choqué, mais on va dire que c'est ce qui fait un peu bizarre. Je m'attendais effectivement à un jeu avec une structure peut-être un peu plus ouverte. Et là, c'est assez prédécoupé, c'est-à-dire que t'as vraiment des niveaux dans lesquels tu as des sous-parties du niveau avec un petit temps de chargement, alors très léger, hein, mais... Donc t'as des parties du niveau qui sont reliées entre elles. Et de temps en temps, tu croises un ennemi et tu le combats, et là, effectivement, tu passes en mode RPG, où là, sur ton gamepad, tu vas aller sélectionner les bonnes cartes, les colorier si elles sont pas... si elles sont vierges, parce que c'est quand même, les cartes sont quand même beaucoup plus efficaces quand elles sont coloriées, et les balancer sur le terrain de jeu, et ensuite tu retrouves la mécanique standard dans laquelle t'es obligé d'appuyer sur des boutons synchronisés ou à certains moments bien précis pour maximiser la quantité de dégâts que tu vas faire à l'ennemi, ou au contraire pour esquiver tout ou partie de ce que fait l'ennemi.
Du coup, c'est pas, enfin moi j'avais l'impression que ça rendait les tours assez longs de faire toutes ces actions. Choisir la carte, la colorier, la balancer sur l'ennemi, attaquer, recommencer.
Alors, dans la pratique, ouais, je vois ce que tu veux dire. Dans la pratique, j'ai envie de te dire oui et non. C'est-à-dire qu'au départ, oui, parce que finalement, tu as une carte par une carte, et donc c'est relativement lent. Mais quand tu arrives en fait au moment où tu commences à avoir deux ou trois cartes sur ton gamepad, c'est-à-dire que tu peux lancer deux ou trois cartes en même temps. Au final, ça va assez vite parce que tu sélectionnes tes trois attaques, tu colories les cartes que tu as besoin, tu balances, et à ce moment-là, pouf, tu fais tes actions. En fait, c'est vraiment au début, c'est relativement fastidieux, et après, bon, d'abord, tu prends un peu plus l'habitude et le réflexe. Tu vas acheter éventuellement des cartes qui sont déjà colorées, histoire de gagner du temps, dans certains cas. T'as vraiment intérêt à faire ça, je pense, dans certains cas. Et finalement, tu balances tes cartes relativement vite parce que tu vas les balancer deux par deux, puis trois par trois, et ainsi de suite. Ce qui est très pénible au tout début du jeu, c'est que tu te retrouves. Il y a un niveau qui est une espèce de caverne, et tu te retrouves à combattre 4 ennemis en même temps, sauf que t'as qu'une seule carte. Donc en fait, tu peux balancer une attaque sur le premier ennemi, des fois t'arrives à battre le deuxième en même temps parce que tu fais rebondir ta première attaque, enfin bref, faut que tu te démerdes pour arriver à éliminer le plus d'ennemis possible en une attaque, et c'est assez pénible. Mais dès que tu trouves la deuxième carte, enfin dès que tu trouves la possibilité de lancer deux cartes à la fois, ça va déjà beaucoup plus vite, et à partir de 3 cartes, là ça devient vraiment confort. Tu commences vraiment à enchaîner les trucs, et en plus ça va être un peu plus stratégique, parce que à une carte t'es vraiment obligé de tu bourrines, quoi. À deux cartes tu peux aller te dire le premier ennemi je vais lui sauter sur la tête, le deuxième je lui donne un coup de marteau, le troisième je vais aller faire ça. Voilà, tu commences à avoir un aspect un tout petit peu plus stratégique en fonction de ce que t'as devant toi.
D'accord.
Alors stratégique avec des gros guillemets, hein, quand même.
Y a toujours eu un peu de stratégie dans les Paper Mario, parce que fallait bien, quand les ennemis qui ont des pics sur la tête par exemple, fallait pas leur sauter dessus. Fallait taper au marteau, et Koopa, qui était comme dans le jeu, fallait sauter dessus pour qu'ils se retrouvent sur leur ventre et après les finir avec ce que tu voulais, quoi. Il y a toujours eu genre un petit peu de petits gimmicks stratégiques, t'es obligé au moins à réfléchir 2 secondes et pas à bourriner l'attaque, quoi.
Ouais, voilà, c'est un peu ça. Il y a un seul truc que moi je trouve relativement lourd. Alors, en dehors de cet aspect très prédécoupé, c'est-à-dire finalement, les niveaux sont prédécoupés, enfin, le monde en lui-même est découpé, les niveaux sont découpés, les énigmes sont découpées. Il y a deux choses qui, moi, me paraissent un peu bizarres. Il y a le côté les ciseaux pour aller couper le décor que tu as vu pendant le direct. C'est-à-dire, de temps en temps, tu maintiens la touche Y, Mario, enfin Paper Mario fait genre yeah, et il cherche un truc à découper dans le décor, une ligne bien droite, un carré parfait à un endroit. Donc tu peux l'image du haut de l'écran redescend sur le gamepad et en fait tu traces le trait sur le gamepad pour couper ce morceau là et tu vas te retrouver dans l'univers je sais pas quoi et aller du point A au point B. Ça te permet de traverser une rivière, ça te permet d'aller coller une carte directement dans le décor pour t'en servir, une carte géante. Il y en a deux ou trois. Enfin, j'en ai croisé jusqu'à présent une, c'est une espèce de ventouse pour aller déboucher un tuyau. Qui est la première fois dans Mario où t'as une ventouse pour déboucher un tuyau.
Là, c'est original, effectivement.
C'est, voilà. Et ce truc-là, j'ai toujours l'impression que c'est un peu catapulté à la va te faire foutre au milieu du jeu. Genre, il y a un écran dans des sous-niveaux dans lequel tu dois découper un truc. Et c'est tellement le truc auquel tu penses à peu près jamais que tu te retrouves comme un con à passer devant trois fois et te dire putain, mais qu'est-ce qu'il faut faire.
C'est ce que j'avais dit, je t'avais dit sur le chat où à un moment t'étais bloqué, oui, t'as dit mais genre essaie de découper mais complètement au pif.
Mais oui, mais c'est ça, mais en fait il y a plein
t'as que ça à faire, donc test.
Il y a plein, mais voilà, mais il y a plein d'endroits où t'es là genre mais qu'est-ce qu'il faut faire et machin, et puis là tu te dis bon ok on va regarder et pouf, oui il y a un découpage à tel endroit. Franchement, j'ai vraiment l'impression que la mécanique elle a été intégrée un peu à l'arrache. Il n'y a rien, tu n'as aucun indice qui te permet de déterminer si tu dois découper ou pas. On te dit juste, si tu as des lignes bien droites ou une forme vraiment très régulière dans le décor qui te paraît bizarre, mais comme tout est à base de papier, mais toutes les formes sont bien régulières, les gars. Enfin, je veux dire, il n'y a que des lignes droites. Hein.
Ouais, c'est, non, c'est... Je sais juste qu'il y a un moment, ils avaient mis la caméra de façon à ce que tu comprennes que... Genre, il y avait un truc là que tu pouvais découper... Genre cette zone particulière était intéressante, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme dans le précédent où genre il y a des trucs à trouver, mais il n'y a pas vraiment d'indices et tu dois un peu te démerder, quoi.
Bah là, moi, en tout cas, le découpage, c'est un peu l'impression que ça me donne. Hein. T'es en mode démerdenzizi. Et le deuxième truc qui m'a un petit peu saoulé, mais je sais pas si c'est l'héritage de Sticker Star ou pas, tu vas pouvoir me dire. Tu te retrouves de temps en temps, c'est pas tout le temps, mais tu te retrouves de temps en temps, c'est-à-dire quand tu colories les murs, ou le plancher et tout ça, tu as une réserve de peinture, une réserve rouge, une réserve bleue, une réserve jaune, et avec ton marteau splash, tu vas aller splasher toutes les zones qui sont blanches, et ça va les découper, et ça va automatiquement consommer de la peinture de la bonne couleur. Mm-hmm. Quand tu te retrouves dans la caverne violette, tu splashes les murs, ça va consommer du bleu et du rouge. Puisque c'est du violet. Pareil, quand tu splashes un arbre, c'est vert, ça va consommer du bleu, du jaune. T'as des endroits où ça consomme que du jaune. Donc, il y a plein de moyens de regagner de la peinture à plein d'endroits différents dans le jeu, et ça marche très bien. Il n'y a vraiment pas de soucis. Je me suis dit, pour un moment, ça va peut-être être galère si je suis à court de peinture, mais en fait, le jeu, non, se démerde toujours pour que t'aies la bonne quantité de peinture au bon endroit. Ça marche très bien. Par contre, les cartes, c'est une galère sans nom.
C'est l'héritage de Sticker Star.
Bon, donc c'est l'héritage de Sticker Star, c'est
bien. En fait, avant, c'était le menu traditionnel du RPG, c'est t'avais une action saut, une action marteau. Et dans ces deux trucs, t'avais des capacités spéciales que t'avais avec des bâches que t'équipais. Mais c'était des trucs fixes, hein. Tu les équipais une fois, tu l'avais pour. Tant que c'était équipé, tu l'avais. T'avais quelques pouvoirs un peu spéciaux que tu débloquais en finissant les chapitres. Et des objets, mais c'est resté assez traditionnel. T'avais pas de limite de ressources pour attaquer, on va dire. Donc du coup, c'était assez rapide et intuitif. Et Sticker Star a introduit les stickers en nombre limité. Donc, tu veux faire un saut, faut un sticker saut. Taper au marteau, faut un sticker marteau. Et là, c'est à peu près pareil avec les cartes, si j'ai bien compris.
C'est pareil. Et le truc un peu con, donc si tu tapes dans le décor et que tu splashes des trucs et que tu colories des trucs, tu récupères des pièces, tu récupères de la peinture de temps en temps, tu récupères des cartes. Donc tu pourrais te dire, les mecs ont mis suffisamment de cartes dans le niveau pour que je puisse m'en sortir avec tous les ennemis qu'il y a dedans. Et en fait non. Et ce qui se passe, c'est que tout le pognon que tu gagnes en fait passe dans la boutique de cartes qui est dans la ville principale, dans le hub principal, sur lequel tu vas acheter des cartes vierges, tu vas acheter des dizaines de cartes sauts, des dizaines de cartes marteaux, et ainsi de suite, pour être certain de ne pas être à court. Même en faisant ça, je me suis retrouvé de temps en temps à court de cartes, c'est-à-dire qu'il me restait que des champignons, qui permettent de regagner de la vie. Alors les champignons rouges, ça te regagne de la vie, les champignons verts, ça te remet de la peinture. Mais je me suis retrouvé à ça, et alors, les mecs sont quand même pas trop cons, ils ont prévu une roulette de combat, c'est-à-dire que tu payes 10 pièces, et tu peux gagner une carte par tour, avec ces 10 pièces. Et je me suis retrouvé à un moment à être obligé de combattre tous les ennemis en utilisant que la roulette parce que j'avais rien d'autre. Ouais, ça, et c'est... là, ça devient péniblissime à gérer, quoi.
C'est... Je trouve ça un peu dommage. Et alors surtout en plus, tu combines le nombre limité de cartes à une quantité limitée de peinture. Et je me suis dit, quitte à avoir un système de cartes, autant faire un truc à la Bataille de Kaitos où tu fais ton deck, tu mets tes capacités. Donc tes cartes arriveront peut-être un petit peu au hasard, ou tu devras les choisir pendant le combat, tu peux utiliser qu'une seule fois. Et au final, ta limite, c'est ta jauge de peinture. Et toutes les cartes vont pas consommer de couleur. Je pense que là, ça aurait été malin, avec un moyen de récupérer de la peinture en combat. Mais le fait d'avoir... Enfin, moi, c'est ce qui m'avait un peu fait chier dans les combats de Sticker Star, outre le fait que tu gagnes rien, c'est que ben, tu consommes des ressources pour rien gagner. Et quand ils ont mis ça, on avait posé la question au mec qui présentait... cet été, il m'a dit, bah, a priori, ouais, elles sont usage unique. J'étais, les combats, ça va pas être trop ça dans celui-là non plus.
Je sais pas.
Ça confirme un peu ma peur, ce que tu me dis de, t'es à court, t'es un peu dans la merde, quoi.
T'es à court, t'es un peu dans la merde. Et apparemment, j'ai vu ça aujourd'hui, je l'ai pas balancé en news parce que, bon, je suis pas certain si c'est un bug ou si c'est le mec qui s'est mal démerdé. Mais apparemment, il y a un joueur qui a réussi à trouver un bug, alors je mets des gros guillemets à bug parce que c'est bizarre, dans lequel il y a un Québec qui a transformé toutes ses cartes en cartes marteau, et il fallait qu'il combatte une chauve-souris. Alors, je sais plus comment s'appelle les chauves-souris, hein, vous m'excuserez, mais c'est une chauve-souris. Et en fait, le marteau peut pas agir sur la chauve-souris. Parce qu'elle est en l'air. Et le problème, c'est que le mec, il avait genre 125 cartes marteau. Et il pouvait pas fuir parce que il avait toujours des cartes. Alors je sais plus pourquoi il pouvait pas fuir, mais il y avait une raison pour laquelle il pouvait pas fuir. Parce que tu peux quand même fuir les combats, c'est-à-dire si vraiment c'est la galère, tu peux te barrer. Ce qui est quand même pas plus con qu'autre chose à mon avis. Il y a beaucoup de moments où t'as vraiment carrément intérêt à fuir et à pas du tout combattre. Bref, le mec explique au long de sa vidéo que il est obligé d'user toutes ses cartes marteau et à la fin, une fois qu'il a plus du tout de cartes, là il peut fuir. Donc le mec a cramé 125 cartes marteau.
À cause d'un bug.
Alors je sais pas si c'est un bug ou si.
Non, c'est mal fait, mon avis.
C'est
juste pas le branlé.
Mais je dis que il pourrait y avoir une espèce de truc qui détecte. Putain, de toute façon, le joueur ne pourra jamais battre cet ennemi avec ce qu'il a. Bah laissons le fuir.
Ou simplement, et je crois que c'était le cas dans le Sticker Star, c'est. Tu fuis le combat quand tu veux, quoi. Et globalement,
alors là, je sais pas pourquoi il pouvait pas fuir. Tous les combats dans lesquels j'étais, je pouvais fuir.
De mémoire, Sticker Star, tu pouvais fuir même les combats de boss.
Alors là, je serais quand même très curieux de savoir comment ça marche.
Bah, en fait, c'est simple. Les boss, tu pouvais souvent les battre qu'avec un objet, donc s'ils voient que t'es dans la merde, ils t'autorisent à fuir.
Ok, c'est là que tu sens que le système est un peu merdique quand même.
Non, mais je comprends pas pourquoi il s'obstine avec ça. Le système habituel a toujours été très bien. Ta gueule Skype, s'il te plaît. Voilà, le système ancien était.
Bonjour les amis de Antique sur Skype.
Voilà. Le système.
J'ai semblant.
Ouais, c'est histoire de dire. Hein. Je n'ai pas d'amis, évidemment.
Mais oui, le jeu, comme de tous. Mario, Fire Emblem, c'est ça, les amis, sont à l'intérieur. C'est les gens d'Oshido, voyons.
Mais ils sont tous morts. Ils sont tous mutés. Quand j'ai changé de camp.
Ce mec est quand même une putain de girouette, quoi. Il a commencé avec le Nord, il a buté tout le monde. Même, il a recruté personne, hein. Il les a tous fumés. Et derrière, il joue Oshido, il est en mode, ouais, non, ça va bien se passer.
Je sais pas pourquoi ils s'obstinent avec ce système qui est vraiment à le branler et ils reviennent pas à un truc un peu plus classique, quoi. Où ils assument complètement le côté point and click et les ennemis tu les barres en leur sautant dessus comme dans un Mario et tu résous des énigmes à côté avec des dialogues rigolos, quoi. Bon, franchement,
ça réduirait, je pense, assez considérablement la durée de vie du titre, je veux dire en heures brutes.
J'ai envie de dire, si tu tapes 10 heures de combat chiant sur 20 heures de jeu, juste faire 10 heures de jeu, tu vois. Mais 10 heures bien.
Mais voilà, moi personnellement, c'est pour ça que je ne joue pas à Final Fantasy, parce que les combats me barbent.
Ah ouais, clairement.
Je
peux parfaitement comprendre. Hein.
Je trouve ça chiantissime. Et de manière générale, le RPG traditionnel, le tour par tour, les combats ont tendance à me barber.
Ah, ça, on le savait, hein.
Vous savez que j'ai une. Voilà, alors, il y a des RPG auxquels j'arrive à me mettre parce que je trouve qu'effectivement le système de combat est un peu plus orienté action ou stratégie ou un peu plus réflexion, mais c'est vrai que le truc de. J'ai regardé mon petit frère jouer à Final Fantasy 8 ou 9, ou peut-être les deux d'ailleurs, mais c'est juste chiantissime, quoi, à regarder, à jouer, machin. Moi, je trouve ça absolument effrayant. Tu te balades sur une carte sans intérêt. Et de temps en temps, ça fait pfiou, t'as un temps de chargement.
Voilà. Oh, c'est le temps de chargement PlayStation en plus, hein.
En plus, et tu passes ton temps ensuite dans des menus à faire à peu près toujours la même chose, parce qu'en réalité, t'as les attaques efficaces de tes personnages, il y en a 4.
Attaque,
un par personnage.
Attaque, attaque et attaque.
Non mais c'est ça. Il n'y a aucune... Enfin, il n'y a aucune stratégie, j'exagère peut-être un peu. Les gens, les fans de Final Fantasy vont m'allumer, mais c'est pas grave.
Non, la, sincèrement, les
combats stratégie est ultra limitée. Finalement, il n'y a que les questions de timing qui sont éventuellement un peu intéressantes, mais ça reste super plan-plan, et voilà, quoi.
Les combats aléatoires dans Final Fantasy, c'est rarement passionnant. Le 10 avait fait un truc sympa avec un système de certains personnages sont avantagés contre un certain type d'ennemis. Et qui du coup était combiné à un système de changement de personnage extrêmement rapide, quoi. C'est ah bah j'ai pas le bon perso, je switch et je peux directement agir avec le nouveau. Lui il était vraiment bien foutu et même les combats aléatoires étaient pas trop chiants. Mais on va pas se mentir, les combats aléatoires dans les RPG, c'est juste pour gagner des niveaux et des ressources, ça sert pas. S'il y a pas cet aspect gain de niveau progression, et c'est juste une perte de temps.
Mais c'est vrai que là, du coup, le Paper Mario Color Splash, il y a un truc étonnant, c'est qu'effectivement, les combats ne servent qu'à gagner des pièces qui servent à acheter des cartes pour faire les combats.
Ah, j'ai vu que t'avais des espèces de marteaux récupérés pour augmenter la taille de ta jauge de peinture.
Ah oui, tu peux augmenter ta jauge de peinture.
Ça aurait pu être un coffre à débloquer dans une zone, ça m'aurait pas plus choqué en vrai.
Oui, mais là, à la limite, c'est sympa parce qu'effectivement, si tu... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Là, si tu combats pas les ennemis, effectivement, tu récupères pas les petits marteaux de papier qui te permettent d'augmenter ta jauge de peinture. Maintenant, on va être très honnête, j'ai jamais réussi à vider une jauge de peinture. Si, donc pendant le direct c'est, une fois, mais parce que j'étais vraiment...
Je me souviens qu'au début, ouais, au tout début du jeu, tu peinturais un peu tout et du coup, tu t'es trouvé à court de peinture rouge ou un truc comme ça.
Ouais, parce que j'avais plein de trucs à peindre qui étaient rouges.
Et t'avais pas grand-chose pour récupérer derrière.
Et j'avais pas grand-chose pour récupérer derrière, mais c'est assez exceptionnel en réalité.
D'accord.
Quand tu fais le reste du jeu, tu te rends compte qu'en réalité ta jauge de peinture, ça va quoi, t'arrives à la maintenir. Et il suffit d'aller frapper avec ton marteau normal une fleur, un caillou, un machin pour récupérer de la peinture.
C'est pour ça que ça me paraît toujours bizarre qu'ils aient pas juste proposé de colorer les cartes. Enfin, genre une espèce de deck à la Baten Keto, si tu colorais tes cartes et basta quoi. Comme ça, au moins la jauge de peinture, j'aurais vraiment une utilité de la gestion de la jauge de peinture en combat, ça aurait été un peu plus intéressant quoi.
Je sais pas, parce que c'est vrai que là dans les combats, à part augmenter tes jauges de peinture, tu ne gagnes rien. C'est vraiment. Tu gagnes des pièces.
Voilà.
Qui te permettent d'acheter des cartes, du coup. Parce que
c'est le même
et ça
problème.
Tourne un peu en rond.
Ça a l'air d'être le même problème que Sinclair Star. C'est un jeu qui a le cul entre deux chaises. Et qui. Après, je connais pas le côté aventure. J'ai l'impression que le scénario était un peu plus poussé, un peu plus. Chercher un peu plus à tendre vers l'humour et compagnie. Mais en tout cas, ouais, la partie combat RPG me donne vraiment pas envie, quoi. Enfin, je l'ai déjà vécu, donc je sais que c'est pas fou, quoi.
Alors moi après, c'est le premier Paper Mario que je fais sérieusement. Personnellement, c'est vrai que la partie combat, enfin, ça me dérange pas fondamentalement. Surtout que si t'as envie d'éviter les combats, tu peux parfaitement le faire.
Oui, ça je vois, t'es le cas d'ailleurs. Hein.
Je pense que tu dois pouvoir faire l'intégralité du jeu sans faire un seul combat sur la carte
boss,
en dehors des boss. Des fois, c'est intéressant de les faire parce que tu peux quand même aller récupérer des trucs. Après, sur le principe... Ouais, je sais pas, c'est un peu compliqué. J'ai peur effectivement que ce que tu me décris de Sticker Star, ce soit à peu près le même syndrome. C'est-à-dire qu'au final, le jeu il a l'air vraiment drôle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un scénar, il y a des remarques pleines d'humour partout, il y a des personnages délirants, il y a un moment où tu joues au Bon Toad.
Bon Toad ?
Bah, c'est le Bon Toad des Toads.
Hein ?
Bah oui, c'est le Bon Toad, tu connais le Bon Toad ?
Non.
Le jeu où tu mélanges des. Tu sais, tu dis trouver la reine de cœur et tu mélanges les cartes.
D'accord, avec des.
Voilà, c'est trouver le taux de.
Le bon taux, d'accord. Mais voilà. J'avais vu qu'il y avait des trucs très très drôles. Enfin, déjà, les mascasses ont l'air d'être un peu les sbires du jeu à vider les gens de leur couleur avec des pailles. Je trouve ça déjà complètement débile.
Putain, mais il y a
c'est
tellement.
C'est un peu tendancieux.
C'est un peu. Ah, oui, non, mais c'est plus que tendancieux.
Il y en a qui vraiment, quoi.
C'est plus que tendancieux. Parce qu'il y a un moment où tu tombes sur un mascasse. C'est dans la caverne d'ailleurs, tu tombes sur un mascasse et il fait un truc genre haha, je viens juste de finir de te sucer et maintenant je vais attaquer l'autre. Et t'es là genre ok, très bien, ça va très bien se passer. Et derrière, le mascasse te regarde en face, tu vois, en mode il pousse une espèce de cri, t'as son visage qui se retourne et il fait l'exorciste en fait, tu vois, il se retrouve à marcher sur les mains et sur les pieds, mais à l'envers, tu vois, en arquant le. C'est juste délirant. Il y a tout un tas de références totalement délirantes dans ce truc qui sont... Je pense que rien que pour ça,
Le jeu moi, j'ai envie de le faire juste pour le scénario, en fait. Enfin, le...
Mais moi, je suis de plus en plus tenté, plus ça avance, plus je suis tenté de zapper 80% des combats, de faire vraiment que ceux qui me tombent dessus, ou moi, ceux où j'ai vraiment l'avantage, ouais. Et puis voilà.
Moi, j'ai vu, quand t'avais fait la phase... dans la prairie au début où t'avais genre buté juste plein de mascasses et t'arrives au café Toad, ils sont tous en train de faire la queue et genre même pas tu les combats, ils sont en train de dire mais dégage, va au bout de la queue quoi, moi j'ai envie de prendre mon truc, je suis là depuis ce matin.
Non, mais c'est ça,
complètement débile.
C'est ce que mais oui c'est ça voilà, et donc j'étais parti sur le Bon Toad à la base. C'est le truc marrant parce que le Bon Toad c'est le jeu de cartes où tu peux arnaquer les gens, c'est le principe du Bon Toad. De toute façon personne trouve jamais la dame de cœur, elle est jamais à l'endroit que t'avais prévu. T'as trois cartes, le mec mélange, et en réalité, t'es jamais au bon endroit. Et là, le Bon Toad, c'est pareil. Il confie la clé à un Toad, les Toads se mélangent, tu frappes le Bon Toad et il te dit « Non, non, c'est moi qui avais la clé. » Et donc, faut que tu trouves une preuve, enfin, le moyen de dire « Non, non, celui qui a la clé, c'est celui-là, t'as essayé de me niquer. » Et au moment où tu y arrives, alors en fait, le truc est tout bête, hein, tu arroses de peinture le Toad qui a la clé au départ, puis tu dis « C'est bon, tu peux mélanger. » Il se mélange. Évidemment, ça tombe pas sur le bon. Et puis là, il y a le capitaine, enfin le mec qui organise le Bon Toad, qui avoue qu'en fait, ça fait 500 ans qu'ils font ce festival, que personne n'a jamais trouvé la clé, parce qu'en fait, ils trichent depuis 500 ans. c'est le truc qui a tellement pas de sens que c'est juste...
C'est pour ça que je dis, c'est Paper Mario, enfin les Mario RPG, c'est l'univers de Mario décomplexé. Ils se prennent vraiment pas la tête, quoi. Enfin, ils savent que c'est un univers qui a aucun sens, donc autant aller au bout, quoi.
C'est un peu ça. Donc, rien que pour ce côté un peu second degré, complètement décalé, je pense que le jeu vaut le coup. Par contre, effectivement, le côté combat, plus ça avance, plus je me dis, ça vaut peut-être pas forcément... Enfin, c'est pas l'aspect le plus intéressant. Donc oui, il y a des fois, c'est intéressant d'aller combattre pour aller récupérer une clé, un cœur, un machin, un truc, parce que ça te permet quand même d'aller avancer un peu plus vite. Mais j'aurais presque tendance à bourrer les combats à mort, on va dire, sur les premiers niveaux, où c'est relativement facile pour gonfler la jauge de peinture... et pour gonfler la vie et pour gonfler 2-3 stats comme ça, et puis derrière à y aller un peu plus en bourrin. Moi je pense que c'est la stratégie que je vais adopter en tout cas. On verra bien ce que ça donne. Je sais pas si Drosgar et Zergy vous êtes bien silencieux, mais faut dire que nous occupons le temps d'antenne.
Le problème c'est que j'ai jamais fait un Paper Mario et j'en ai vu en vidéo un peu, mais c'est tout. Alors j'ai celui sur 3DS, mais du coup ça me fait un peu chier de commencer par celui-là.
Du coup, il y a Antix qui t'a dégoûté de celui-là dès le départ.
C'est clairement.
Ouais, je t'ai dégoûté déjà à la base, mais là, ça m'a encore cassé les pattes, donc encore pire. Et après, bah, j'aimerais bien choper celui sur GameCube, mais putain, 60 balles, ça fait mal quand même.
Bah, franchement, enfin. Je pense que ça vaut le prix, mais au fond, t'as celui sur 64 qui a 10 balles sur ta Wii U, enfin, donc t'emmerdes pas.
Ouais, c'est sûrement par là que je commencerai, mais il faut trouver la foi déjà d'aller sur le menu eShop de la Wii U, c'est compliqué, hein.
Non, mais ça c'est autre chose.
Je suis pas Yanoupa derrière, hein. Y'a que Yanoupa qui va tout le temps dessus sur l'eShop, qui traîne pour télécharger des démos obscures et des jeux indés qu'on connaît pas.
Ouais, mais
non,
c'est...
Ça vaut quand même le coup de le tester au moins. Enfin, en plus, le premier est vraiment pas compliqué, pas très dur, facile à prendre en main.
Oui, ça a l'air d'être celui qui est un peu le moins prise de tête... je dirais le meilleur compromis prise de tête aventure machin tout ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression moi de tout ce que t'as décrit Antix que le premier reste quand même rentable, en tout cas sur eShop, parce que finalement pour 10€ t'as un jeu complet sur lequel c'est pas prise de tête, l'histoire est marrante, t'as un système de combat qui marche relativement bien et voilà, et le truc tient la route. J'aurais tendance à dire que Super Paper Mario vaut peut-être le coup aussi.
Sincèrement, les trois premiers
mais voilà,
sont...
Mais le problème, c'est que Paper Mario, la porte millénaire, il coûte 60€ sur GameCube.
Voilà, et la GameCube, c'est pas aussi facile à émuler que la 64 ou la Super Nintendo.
Ça se fait.
Ne nous mentons pas.
J'ai un bon PC.
Ça se fait. Si t'as un très bon PC, ça se fait.
J'ai un bon PC, mais derrière, je trouve pas ça agréable, en fait. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à jouer à l'émulation.
Ah non, bah après, il y a les gens qui ont du mal à jouer à l'émulation, ça se comprend. Mais ouais, globalement, les trois premiers sont clairement les trois meilleurs de la série à l'heure actuelle. Je n'ai pas joué à celui sur Wii U, donc
Alors en même temps, il y en a quatre. Enfin, il y en a cinq.
Mais comme j'ai pas joué à celui sur Wii U, hein, je ne peux pas le compter. Mais globalement, ouais, c'est les trois qui sont à faire. Évidemment, j'ai une petite préférence pour le premier. Certains diront que c'est nostalgique. C'est pas complètement faux. Hein. Ça reste un de mes premiers RPG, et un de mes derniers jeux 64. Mais de toute façon, Super Paper Mario est bien vraiment. Enfin, si si vous voulez voir ce que ça donne Mario, Mario en mode rien à foutre, bat les couilles du scénario, bat les couilles du respect de l'univers, on va faire ce qu'on a envie, ouais. Ça vaut le coup d'y jouer.
Bah, moi j'aurais tendance à dire la même chose, juste pour le côté humour et scénario, je pense que voilà.
De toute façon, je pense que c'est la
celui plus... sur Wii U, en tout cas, vaut le coup, à mon avis, juste pour ça.
C'est la plus grande réussite des Paper Mario, à l'exception de celui sur 3DS. C'est vraiment... cette façon... ce traitement de l'univers de Mario, qui, tu vois, est pas fait par le studio interne de Nintendo, mais par une équipe qui...
qui a les moyens de faire ce qu'elle veut.
Qui a les moyens de faire ce qu'elle veut, et qui... ouais, qui a envie aussi de faire un peu autre chose. Ben, on n'est pas Nintendo, on n'est pas EAD, on est intelligent système... Nos spécialités, c'est des jeux de stratégie où des mecs ils meurent définitivement. on va faire un peu autre chose, quoi.
On va faire un peu autre chose.
Et voilà, c'est toujours une vision intéressante de l'univers de Mario. De manière générale, les Mario RPG, c'est toujours une vision très amusante de l'univers de Mario, qui est vraiment pas la même de ce qu'on peut avoir dans un Galaxy, dans un 3D World, dans un Sunshine, quoi.
Ouais. Bon, en tout cas, nous finirons là-dessus, je pense. Alors, je sais pas. Pas effectivement, voilà, on a conseillé ce qu'on pensait être intéressant. Je pense qu'on va terminer là-dessus parce que ça me paraît bien. Moi, Color Splash, peut-être que je reviendrai dessus plus par écrit quand je l'aurai fini. Je pensais rédiger éventuellement un petit quelque chose pour donner un avis global sur le jeu, mais j'attends effectivement de l'avoir fini. On va terminer avec la question du jour. Alors, c'est dommage parce que Méduse n'est pas là, cette question lui était directement destinée. La question du jour qui nous vient de Darkling64. Qui demande, hein, Méduse, as-tu servi d'inspiration pour Splatoon ?
La réponse
est évidemment oui. Hein, je veux dire, ils ont pris... en fait, quand le Inkling est en forme de poulpe, c'est comme ça que Méduse se déplace dans le métro. Hein, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'il a son sac à dos sur le dos, tout ça, il descend dans le métro, et pouf, il se transforme en poulpe, il glisse sur sa propre bave le long des quais avant de rentrer dans son train. C'est exactement comme ça qu'il fait. Voilà, donc c'est du vrai, du vécu. Voilà. Si vous voulez nous envoyer vos questions, vous pouvez, hein, sur le compte Twitter, hashtag Dojobar, ou par mail bar@nintendojo.fr, on s'engage à y répondre, même les plus débiles.
Surtout les plus débiles.
Surtout les plus débiles, oui, parce que sinon les autres n'ont aucun intérêt. La citation du jour qui nous vient de Méduse, hein, qui n'est pas là, donc on profite un petit peu pour tirer sur l'ambulance. Méduse, donc, un jour, nous étions en train de discuter de sport nautique. Et Méduse me dit, un petit peu comme ça, faut arrêter de se moquer du monde, un kayak à l'envers, ça fait pas kayak, ça fait glou 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 glou.
Ouais. Non.
Je suis content. J'en avais une autre, mais je la garderai pour une autre fois où vous en souviendrez plus, comme ça ce sera bien.
Ok, je l'oublierai pas.
Eh ben c'est
attends, c'était grave. Quoi déjà?
Il s'est fait avoir. Messieurs, je vous remercie de votre présence. Alors, je suis désolé, effectivement, si vous avez eu l'impression qu'il y avait une espèce de dialogue entre Antix et moi, c'est parce qu'effectivement, on avait le spécialiste de Paper Mario d'un côté, le mec qui a joué à Color Splash de l'autre, et à côté Zergy et Drosgar, qui, malheureusement, il connaissait pas forcément grand-chose.
Bah, Drosgar est beaucoup trop jeune, voyons. Il Drosgar, est né l'année dernière.
Il est né il y a 6 mois, quoi, à peu près.
Vous verrez pour la sortie Pokémon, je serai là, vous inquiétez pas.
J'avoue que Pokémon Soleil et Lune.
Pokémon Soleil et Lune, je pense.
Ce sera le Drosgar Show, voilà. Quoi.
Ce sera le Drosgar Show, je pense qu'on va inviter Pika Surf aussi.
Ah oh, oui, ça va être
une belle conversation. Et à mon avis, il y aura un joli dialogue Drosgar Pika Surf, et on va juste aller manger une choucroute, nous, pendant ce temps-là.
Je pense que je m'ouvrirai une bière et je me marrerai un petit peu en parlant de Pokémon.
Écoute, je t'offre le popcorn si tu veux.
Tellement.
Ça va tellement être ça. Bref, on se retrouve dans 2 semaines. On ne sait pas le thème de l'émission de dans 2 semaines parce qu'il n'y a toujours pas de NX et que ça fait chier.
On va dire que ce sera la présentation de la NX et puis on trouvera une autre idée si c'est pas bon. Hein.
Ça résume très bien l'idée.
Nintendo, ne fais pas passer pour des cons s'il te plaît.
Maintenant, Nintendo va faire te bouger le cul parce que nous, on n'en peut plus. Voilà, donc il faut que tu viennes maintenant. Il faut qu'elle sorte la NX. À un moment, il faut que tu arrêtes
on
de regarder le secret, c'est ridicule.
On est prêt à prendre n'importe quelle rumeur quand il y a marqué Nintendo Duo, quoi.
Ah non mais attends, ah oui, là franchement, si Nintendo arrive et dit ils sortent un smartphone ou je sais pas quoi, je suis content. Je suis content parce que ça s'arrête. Mais c'est une idée de merde, mais au moins on aura arrêté d'attendre.
Bon, on peut acheter une PS4 alors.
Non mais c'est ça, non mais voilà, mais moi franchement je serais content qu'ils sortent n'importe quoi maintenant juste parce que j'en ai marre.
En fait c'est la NES Mini depuis le début.
C'est le... Ouais non mais voilà, depuis le début c'est ça. Et puis en fait, mais vous avez pas dit, mais en fait, voilà. Je suis sûr que ça va être un truc comme ça en plus. Je sens plus l'attente est longue, plus les gens vont avoir une quantité d'attente gigantesque, plus ça va se péter la gueule parce que tout le monde sera en mode putain, c'est que ça. Ça va être horrible.
Ah ouais, non, la hype est tellement élevée que...
Ils vont jamais tenir. Ils vont jamais
tenir. Ah non, mais il y a... Il y aura forcément des déçus.
Il y aura forcément des déçus, en tout cas, ça c'est sûr.
Je pense que les gens s'imaginent beaucoup trop de choses et c'est un coup à faire la déception.
Ça va partir en couille, ça c'est sûr. Bref, on se retrouve dans 2 semaines. Bisous tout le monde.
Ciao.
Salut.
Salut.
Voilà.